On traverse cette bulle du mardi avec Carole, enseignante depuis 12 ans dans le canton de Fribourg. Sa classe compte 15 élèves qui ont entre 7 et 8 ans avec cette particularité, une très grande proportion d'élèves d'origine étrangère. On écoute Carole.
On peut dire presque un 80% d'enfants qui doivent apprendre le français en même temps, qui doivent apprendre à lire et apprendre la conjugaison, la grammaire, l'orthographe, etc.
Alors qu'est-ce que ça implique au niveau de l'enseignement ?
Ça implique que forcément on doit leur apprendre le français en même temps qu'on leur apprend à lire, donc ça veut dire qu'on doit beaucoup travailler le vocabulaire. Quand on travaille un nouveau son en lecture, on travaille énormément de mots de vocabulaire contenant ce son pour que les enfants puissent se créer un espèce de bagage de nouveaux mots vu qu'ils n'ont pas ces mots à la maison. Et puis on a aussi beaucoup d'enfants primo-arrivants, c'est-à-dire des enfants qui arrivent en cours d'année de l'étranger, que ce soit des enfants qui ont des parents réfugiés politiques ou des enfants on a beaucoup d'enfants portugais qui arrivent parce que leurs parents viennent travailler en Suisse. Et du coup, eux, ça implique qu'on leur apprenne complètement le français en même temps qu'on leur apprend à lire et à écrire le français, en fait.
Est-ce que ça met finalement en retard votre programme ou pas du tout? Vous arrivez à ajuster ça?
Alors non, ça ne nous met pas en retard parce qu'on peut s'entraider. On a une dame, une enseignante qui est là à 50% pour s'occuper des enfants qui ne parlent pas français, donc ils vont en cours de langue. Et puis le fait d'être intégré dans des classes, ils apprennent aussi beaucoup plus vite le français. Donc non, ça ne retarde pas, mais c'est clair que ça nous demande un investissement un peu plus grand parce qu'il faut différencier, il faut prévoir des exercices différents pour certains élèves, pour ceux qui parlent déjà un peu mieux le français, pour ceux qui sont complètement allophones puis qui doivent apprendre la langue. Donc ouais, ça nous demande de jongler un peu plus que si on avait une classe normale.
Et par rapport aux parents, peut-être que ça peut aussi poser quelques difficultés d'avoir une relation d'enseignant à parent qui ne parle pas nécessairement le français ?
Alors oui, c'est clair, quand on rencontre des parents, il faut bien s'imaginer, des parents qui arrivent d'Érythrée par exemple, qui parlent pas du tout, qui ont aucun mot en français, on a des traducteurs, donc tout ce qu'on explique aux parents, c'est traduit, donc dès qu'il y a une personne, un interprète au milieu, ils comprennent pas forcément ce que nous on veut dire. Et puis il faut aussi s'imaginer que des gens qui arrivent de l'étranger, c'est pas du tout le même système scolaire. Là, je prends l'Érythrée parce que c'est vraiment un pays où c'est très différent. Donc, ils n'ont pas du tout la notion de ce qu'on attend d'eux à l'école en Suisse. En Suisse, on attend quand même souvent des parents qui aient un suivi à la maison. On leur demande de venir en réunion. On a beaucoup d'appui pour les enfants, de la logo, de la psycho, etc. Donc ça, il faut tout leur expliquer. Puis, ce n'est pas évident à comprendre. Quand on arrive, on débarque en Suisse, c'est déjà tellement différent. Je pense qu'il y a encore toute cette partie école qui est bien compliquée. Donc, c'est pas toujours facile de faire passer un message vraiment pour qu'ils comprennent vraiment ce qu'on aimerait et pas qu'il n'y ait pas de malentendus entre eux et nous, surtout avec une interprète ou un interprète.
On poursuit notre entretien avec Carole d'ici quelques minutes. On va notamment évoquer les clichés liés au métier d'enseignant. On est toujours avec Carole ce matin. Elle est enseignante primaire dans le canton de Fribourg. Et une des caractéristiques du métier d'enseignant, c'est que statistiquement, il figure quand même très fréquemment dans le top 10 des métiers à risque de burn-out, de dépression. Pourquoi ? Comment ça se fait ? Eh bien, élément de réponse avec Carole.
C'est vrai que de plus en plus, on nous demande de faire plein de choses. Certains enseignants diront des choses qui ne font pas partie de l'enseignement, de l'éducation. On nous demande de faire beaucoup de projets, de se renouveler. C'est vrai qu'on demande beaucoup de choses aux enseignants dans la pratique et que c'est pas, il faut pas s'imaginer qu'enseigner, c'est arriver à 8 heures, prendre sa programmation, faire ce qu'on a prévu, puis fermer sa classe à 4 heures. Dans l'enseignement, on nous demande, il y a beaucoup de préparation et puis il y a beaucoup d'entretiens avec les parents, on en a parlé avant. Et puis, je peux comprendre que certains enseignants soient un petit peu dépassés par tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui se rajoutent au quotidien de l'enseignant. Il ne faut pas s'imaginer que c'est l'enseignement comme il y a 40 ans. C'est plus du tout ça. Et puis même que quand moi j'étais à l'école, je veux dire, nous on avait un espèce de respect pour l'enseignant qui est peut-être plus toujours le même actuellement. Et puis on a aussi de plus en plus d'enfants. Ouais, l'enfant roi qui peut décider et faire ce qu'il a envie. Et puis c'est clair que quand on a un enfant comme ça dans la classe, ça peut vraiment nous détruire, nous démonter notre ambiance de classe. Et puis je peux comprendre que certains enseignants soient fatigués de ça et n'aient pas toujours cette énergie à dépenser à dépenser pour gérer les conflits et gérer les à côté de l'enseignement.
Mais donc ça, c'est quand même une réalité à laquelle vous faites face, c'est-à-dire que vous ressentez le fait que certains enfants sont plus vraiment entourés au niveau scolaire à la maison.
Alors, moi, je parle vraiment pour moi, parce que dans mon école, c'est ce que je vous disais avant, il y a déjà des parents qui ne sont pas forcément de langue maternelle française, donc pour les devoirs, ils n'aident pas forcément leurs enfants, et puis ce n'est pas toujours facile pour eux non plus, ils n'ont pas été scolarisés en Suisse pour la plupart, donc ils n'ont pas une idée de ce qu'est l'école en Suisse, donc ils ne peuvent pas forcément les entourer à la maison, et puis il faut dire que des parents qui travaillent à 100%, quand ils rentrent, ils sont aussi fatigués, ils n'ont peut-être pas toujours l'énergie non plus de cadrer. Moi j'ai une très belle anecdote pour ça, j'ai une maman d'élève au début de l'année, je lui ai dit « votre fils il travaille très bien, il apprend très bien, mais... il a beaucoup de peine avec l'autorité, il faut beaucoup le recadrer, il faut beaucoup lui dire « reste à ta place, tu lèves la main quand tu veux parler ». Puis elle m'a dit « ah oui, mais ça vous faites parce que nous à la maison, non, nous ils nous écoutent pas ». Alors effectivement, c'est ce genre de situation où les parents parfois démissionnent, mais de nouveau c'est pas une majorité. Et puis on va se retrouver avec peut-être un ou deux enfants comme ça qui ont plus des contextes familiaux un peu compliqués, mais... il suffit des fois d'en avoir deux pour avoir une ambiance qui devient un peu difficile. Et puis, il suffit des fois de peu pour être pas loin du burn-out, en fait.
11h midi, dans ma bulle.
Dernière partie de notre entretien avec Carole Vuichet, enseignante primaire dans le canton de Fribourg. Cette fois-ci, on aborde les clichés du métier. Le nombre de semaines de vacances par année, par exemple, ou alors les horaires de travail. Le cliché de l'enseignant qui termine sa journée à 16h. Vous voyez sûrement de quoi je veux parler. Eh bien, Carole aussi.
C'est sûr qu'avec les enfants, on est finalement, pour moi, de 8h15 à 11h30, de 2h moins quart à 4h. Mais après, il faut bien s'imaginer que quand on est avec les enfants, ça prend énormément d'énergie. Alors, pour autant qu'on veuille la mettre, c'est clair, on peut avoir le cliché de l'enseignant qui reste assis au fond de la classe, qui donne des fiches à ses élèves, puis qui leur dit de remplir, puis qui corrige le rétroprojecteur. Mais il faut bien s'imaginer que c'est de loin pas une majorité d'enseignants et que si vraiment on a son métier à cœur, on est très actif en classe, on prépare des jeux, on prépare des leçons intéressantes et motivantes pour les enfants. Et ça prend de l'énergie. Et cette énergie, il faut l'avoir pour le faire avant l'école. Moi, je suis souvent à l'école à 7h30. Je mange à l'école pour pouvoir optimiser mon temps de midi et puis pouvoir préparer mes leçons. Je pars rarement de l'école avant 5h, 5h30, voire 6h les jours où j'ai encore des réunions de parents. Alors c'est sûr, il y a des jours où il fait beau puis je peux me dire « Ok, aujourd'hui c'est 4h, je ferme ma classe, je vais boire un coup sur une terrasse avec plaisir, mais je sais très bien que le travail il m'attend quand même et puis que si c'est pas la semaine que je le fais, il y a bien un moment où je vais le faire puis ce sera mon dimanche après-midi. » Et puis les vacances, c'est sûr, on est gâtés, on peut pas se plaindre et puis on peut pas dire que les enseignants ont pas de vacances, ce serait aberrant, mais après on peut aussi mettre ses vacances à contribution pour ses élèves, donc c'est sûr on peut pas dire qu'on n'a pas de vacances, mais je pense que toute l'énergie qu'on déploie à être avec les enfants la journée, il y a aussi un moment où il faut pouvoir se ressourcer d'une manière ou d'une autre.
Et d'ailleurs, je tiens à préciser qu'on avait rendez-vous aujourd'hui à 18h30 pour cette interview et que vous étiez en réunion et que vous êtes arrivé en retard. Donc, c'est-à-dire si vous n'êtes pas parti à 4h de l'école. Est-ce qu'il y a un cliché qui vous énerve vraiment? Un cliché qu'on continue à vous sortir quand on apprend que vous êtes enseignante? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui revient et qui vous tape vraiment sur le système?
Ouais, au début de mon enseignement, j'étais très à cheval quand les gens me disaient « Ah ouais, t'es tout le temps en vacances, ah de nouveau en vacances, ah un petit férié, Pentecôte, Ascension, on vient de les fêter ». Donc effectivement, ça m'énervait énormément et actuellement je dis toujours « Mais pourquoi t'as pas fait enseignant finalement ?»
C'est vrai ça finalement. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait enseignant? C'est un beau métier apparemment.
Ah oui, c'est un métier très enrichissant, pour moi épanouissant parce que je travaille avec mes collègues, je collabore, je me sens pas du tout seule face à mes élèves. Quand j'ai des problématiques, j'ai beaucoup de discussions, je peux beaucoup échanger avec mes collègues. Je trouve ça très très riche, vraiment. Moi, je trouve que c'est un métier hyper intéressant parce qu'on est très libre. Bien qu'on ait des tas d'objectifs et qu'on ait des tas de méthodologies qui nous sont imposées, après, notre façon d'être avec les enfants, elle nous appartient. Et puis, si on est théâtral, si on a un côté artiste, ben on peut s'épanouir pleinement, enfin, ce qui me convient parfaitement.
Mais ça, c'est vrai, parce que vous faites le show quand même devant les élèves, finalement. L'enseignant, c'est celui qui tient sa classe rien que par sa personne, en fait.
Alors, c'est clair que l'enseignant, il est toute la journée en face de ses élèves, et puis que si on veut avoir des leçons motivantes et riches, c'est clair qu'il y a un espèce de petit show, et je pense que tout enseignant a un petit côté acteur en lui, refoulé ou pas.
Un acteur peut-être, mais un acteur qui doit quand même tenir sa classe, on est bien d'accord.
Et peut-être juste un mot sur l'autorité aussi. Comment on arrive à se faire respecter dans une classe devant 15, 20, 25 élèves? Et est-ce qu'il y a un secret qu'on pourrait peut-être appliquer après avec ses propres enfants à la maison?
Alors je ne sais pas s'il y a un secret, mais moi je dis toujours que c'est parce que je mesure 1m78 que les enfants ont un petit peu peur, mais je ne pense pas que c'est ça. Je pense que le fait d'être en accord avec ce qu'on exige suffit, en fait. Moi, j'ai l'impression que si j'exige de mes élèves qu'ils soient silencieux, c'est que je sais pourquoi j'exige qu'ils soient silencieux. Je pense, et je leur explique beaucoup de choses. Par exemple, je leur explique en début d'année que voilà, on peut mieux travailler dans une ambiance calme, qu'on peut mieux se concentrer, et que c'est pour ça que j'exige d'eux qu'ils soient silencieux. Et j'ai l'impression que si on explique les choses aux enfants, ben, finalement, l'autorité, elle peut se faire plus facilement. Après, moi, j'ai aussi été confrontée à des enfants hyper difficiles, et je crois pas qu'il y a de recette miracle. Il y a aussi des jours où je ferme ma classe, puis je m'assieds à mon bureau, puis je me dis, au secours, Carole, quelle piètre enseignante. J'ai toute mon énergie qui tombe, et je me dis, ben voilà, finalement, on peut pas non plus... Il n'y a pas de recette miracle, enfin, on est ce qu'on est, puis chacun a certainement ses trucs et astuces en lui, mais je pense que d'être clair face aux enfants, puis de leur dire ce qu'on attend d'eux, ça aide pas mal.